qui fait qu'aujourd'hui, la première phrase que nous entendons de la parole est « Frère, vous avez été appelé à la liberté ». Et l'extrait de l'Évangile qui nous est proposé par le programme de lecture de notre Église est particulièrement stimulant parce qu'il interpelle à la fois l'Église collectivement, et chaque chrétien en particulier. Et il s'adresse d'abord aux Églises, ensuite à chacun des chrétiens, ici et maintenant depuis des siècles. Et donc, dans ce passage de Luc, dans ces 12 versets du chapitre 9, il y a des images légendaires, des paroles, des images qui sont presque proverbiales. Le Christ qui dit à l'homme dont le Père vient de mourir, laisse les morts ensevelir les morts. Le Christ qui dit à un autre homme, quiconque met la main à la charrue n'est pas propre au royaume de Dieu. Ne pas enterrer ses morts, laisser la charrue. Ce sont des images d'une force extrêmement puissante. Des images qui font noyau, un peu comme disait un philosophe farceur. Un noyau, c'est au cœur du fruit, mais on court le risque de se casser une dent en mordant trop vite. Parce que ces paroles-là, de toute façon, sont des paroles du Christ qui font facilement un petit peu peur, qui sont difficiles à appréhender, même pour nous qui, pour la plupart, essayons de marcher dans la foi depuis quelques années. On n'a pas un Jésus dont la parole est de miel, mais plutôt dont la parole est hérissée, une parole métallique. Il faut d'abord se souvenir, ce qui est dit au début du texte, que le Christ n'a plus beaucoup de temps. Il sait ce qu'il attend, il sait quel va être son sort. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Ce n'est pas seulement la mort qui l'attend, dans l'expression employée par Luc quand il écrit « lorsque le temps où il devait être enlevé du monde ». C'est la mort sur la croix, mais c'est aussi la résurrection, la gloire du Fils de Dieu, la gloire qui va fonder l'Église. Et si je le précise, c'est aussi parce que l'évangéliste Luc est l'auteur des Actes des Apôtres. Source, référence, inspiration pour la vie de notre Église comme de toutes les Églises depuis que le christianisme existe. Et dans ce passage, à partir de ce verset 51 du chapitre 9 de Luc, Jésus parle à l'Église. Il parle à l'Église future, il parle à l'Église qui est dans le plan de Dieu lorsqu'il envoie son Fils parmi les hommes. Et sachant ce qu'il attend, Jésus est dans le mouvement. Il sait que le temps va venir, il part pour Jérusalem. D'autres, dans d'autres spiritualités, attendraient, méditeraient, se retireraient dans le silence en attendant la mort. Lui, il est dans le mouvement, il se met en mouvement, il met ses disciples en mouvement, il met l'Église à venir en mouvement. Et ce moment est important parce que dès lors, le Christ va parler pour demain. À partir de ce moment, l'évangile de Luc transcrit des paroles qui sont faites pour être comprises après la mort du Christ. Et il y a ce premier épisode très court dans le récit que nous avons lu. Jésus et ses compagnons passent par un village samaritain. Vous connaissez l'inimitié entre juifs et samaritains. Juifs et samaritains partagent pour l'essentiel la même foi, les mêmes croyances, le même livre saint pour l'essentiel, mais les uns sont attachés à Jérusalem, ce sont les Juifs au sud, qui sont les descendants des exilés de Babylone, et au nord, les Samaritains, qui sont les descendants des Juifs qui n'ont pas connu l'exil, eux, ils vont prier au mont Garizim. Le mont Garizim est toujours le lieu saint des Samaritains aujourd'hui, c'est près de Naplouse, en Cisjordanie, c'est... Les Samaritains sont aujourd'hui une minuscule communauté de quelques centaines de fidèles, un minuscule peuple rescapé de 2000 ans de tribulation. Mais à l'époque, Juifs et Samaritains se considèrent mutuellement comme des hérétiques. Et c'est pour ça que les Samaritains ne veulent pas recevoir Jésus et ses compagnons. Et c'est pour ça que Jacques et Jean proposent d'appeler le feu du ciel pour les réduire ensemble. Et c'est assez intéressant parce que jusqu'à présent, dans la vie, dans la prédication, dans les voyages du Christ, on n'a pas beaucoup vu de tentations guerrières chez les disciples de Jésus. On ne convoque pas tous les jours le feu du ciel. Mais soudain, là, chez les Samaritains, et devant ce qu'ils considèrent comme une offense des Samaritains, comme une manifestation de l'impiété des Samaritains, ils sont prêts à sortir le lance-flamme céleste, et le Christ dit non. Pas de guerre contre les incroyants, pas de guerre contre l'ethnie d'en face, pas de vengeance de Yahvé sur un peuple coupable d'impiété. Et d'ailleurs, que fait-il? Il passe son chemin. Ils allèrent dans un autre bourg, dit l'Évangile. Et il rappelle ce pourquoi il est là. Il est là non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Les Samaritains ne l'ont pas donné asile, ils n'ont pas prêté l'oreille à sa prédication. Tant pis, il va ailleurs. Peut-être reviendra-t-il, peut-être ses disciples, peut-être son évangile, mais dans l'immédiat, pas de massacre. Et c'est toujours, c'est d'une féroce nouveauté dans les temps bibliques, et c'est toujours une certaine nouveauté. Celui qui massacre en prétendant qu'il commande le feu de Dieu, celui-là n'a rien à voir avec le Christ, ni avec Dieu d'ailleurs. Et je ne vais pas revenir sur la longue histoire des chrétiens, surtout sur la nôtre, protestants, mais il semble qu'il a fallu quelques siècles avant que ces paroles soient entendues, et heureusement entendues par, heureusement, la majorité des chrétiens aujourd'hui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, chers frères et sœurs, que nous accueillons avec joie à la Sainte Seine tous nos frères en Christ. Nous avons de sévères différences, voire de fortes divergences, voire des conflits. Ceux qui ont été baptisés dans un bassin, ceux qui ont été aspergés d'un peu d'eau, ceux qui ont été baptisés par un homme en robe blanche, ceux qui ont été baptisés dans l'enfance, dans l'encens, ceux qui ont été baptisés bébés, ceux qui ont été baptisés adultes, tous ceux qui n'ont pas été baptisés encore, ceux qui reconnaissent le Christ comme leur Seigneur, tous ceux-là sont accueillis. Aucun n'est privé de l'amour de Dieu, aucun n'est privé de notre amour, et aucun n'est menacé du feu du ciel. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que on voit le Christ qui fonde cette espèce de paix religieuse, et qui, juste après avoir lancé cette idée révolutionnaire de ne pas brûler les hérétiques, il lâche une série de répliques cinglantes. Les hommes anonymes, auxquels il répond dans ce passage de l'évangile de Luc, on devine qu'ils sont prêts à changer de vie. On devine qu'ils sont même prêts à changer de religion, puisque le Christ est en train de traverser le pays des Samaritains. Et on comprend très distinctement, on comprend très instinctivement ce qu'il dit dans sa première réponse. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il annonce les tribulations, il annonce les persécutions, il annonce les difficultés par lesquelles vont passer ses disciples, tout ce qui sera justement rapporté par les actes des apôtres, puis ensuite par l'histoire tout entière du christianisme. Mais en revanche, dans notre cœur humain, nous résistons très très facilement lorsque le Christ refuse au deuxième homme du récit d'aller observer les rites funéraires pour son père. Le judaïsme exige un certain nombre de rites pour la mort d'un proche. On doit déchirer ses vêtements, les déchirer d'une certaine manière, en récitant une certaine prière. Et surtout, il y a la Shiva, le temps du deuil, qui dans le judaïsme contemporain est fixé à 7 jours, mais qui au temps du Christ peut durer jusqu'à 30 jours. 30 jours pendant lesquels on se retranche du monde, enfermé chez soi, avec ses parents, avec ses enfants, avec ses domestiques, sans travailler. Et puisque le Christ est juif, il sait exactement le poids de ses rites. Il sait précisément que ce ne sont pas les morts qui enterrent les morts. Il sait que ce sont bien les vivants qui enterrent les morts. Et qu'enterrer les morts est une part extrêmement importante de la vie religieuse juive et même de la vie sociale du peuple juif, et il jette à bas cette pratique. Il dit, pas de rite funéraire. Débarrasse-toi de ton deuil. Non pas de ton père, puisqu'il est déjà mort. Lui, il ne te retiendra pas. Mais c'est le deuil qui va te retenir. Le rite qui va te retenir. Et puis, il y a le dernier homme qui veut juste faire étape chez lui pour prévenir qu'il part avec Jésus pour Jérusalem. C'est la moindre des choses. Prévenir que l'on part. Et la réponse de Jésus dans le texte est assez curieuse. Elle est à peu près la même dans toutes les traductions. Il y a parfois un demi-mot qui change, mais l'ordre de la phrase est toujours le même. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Normalement, on ne passe pas la charrue en regardant en arrière, on regarde plutôt devant, mais il faut imaginer ce qu'est la scène. L'enthousiasme pour le message du prophète Jésus, un homme se prépare à le suivre, et on peut imaginer qu'il s'arrête chez lui, finisse un peu son travail, réalise que il a un peu de travail à faire dans ses champs, et puis qu'il regarde en arrière, qu'il reste là où il est, avec son champ, sa famille, ses obligations, son rôle social, ses traditions. En gros, qu'il reste avec sa vie d'avant le Christ. Et Jésus, en parlant de la charrue, ne dit pas qu'il faut abandonner l'accessoire, le superflu, et se consacrer à l'essentiel. Il pourrait dire « abandonne l'accessoire, abandonne les fanfreluches, abandonne ta collection de timbres, je ne sais pas. Concentre-toi sur l'essentiel, concentre-toi précisément sur ce qui nourrit ta famille et ta collectivité, concentre-toi sur ton utilité. » Sur ta charrue, eh bien non, il dit le contraire. Laisse ta charrue. Et ça fait sens dans la civilisation agraire du Moyen-Orient. Jésus est charpentier. Il aurait pu dire, laisse la varlope, laisse le rabot, laisse la scie, employer des métaphores liées à son métier d'artisan. Non, il choisit l'outil qui est le plus fondateur dans sa civilisation, l'outil sur lequel se fonde l'agriculture. Il ne veut pas dire qu'il faut retourner à une vie de cueillette, il dit juste que laisser la charrue, c'est laisser le travail, la nécessité, le devoir, les contingences matérielles, la position sociale, tout ce qu'il retient sur le chemin du Seigneur. Et évidemment, c'est difficile à admettre dans un pays riche comme le nôtre, dans le 6e arrondissement, mais pas forcément. On ne sait pas comment réagit cet homme du temps de Jésus. Mais on peut très bien imaginer qu'il réponde la même chose que nous répondrions nous. Ne pas mettre la main à la charrue, c'est promettre ma famille à la misère, à la disette, je dois travailler. Et il y a peut-être un quiproquo. Ce que l'on entend, c'est « laisse ta charrue, donc laisse ton travail »,« laisse ce qui assure ta subsistance », mais Jésus dit sans doute plus « quitte ce qui te retient, ce qui t'entrave ». Même si c'est ton métier, même si c'est le deuil de ton père, même si c'est quelque chose d'utile, il demande de passer outre le devoir, de passer outre la nécessité, de passer outre ce qui nous empêche de le suivre, même si, comme l'homme de l'Évangile, nous sommes convaincus de la clarté et de la vérité de son message. Nous sommes évidemment ces hommes que Jésus croise sur son chemin vers Jérusalem. Ils veulent le suivre, mais ils négocient. Ils ont toutes sortes de « permets-moi d'aller d'abord ». C'est la formule parallèle dans les dialogues. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et nous avons tous beaucoup de « permets-moi d'aller d'abord » dans notre relation avec le Christ. Beaucoup de charrues qui nous retardent évidemment sur son chemin. Et notre vie à tous dans l'Église, est évidemment conditionné à beaucoup de « permets-moi d'aller d'abord ». Permets-moi d'abord de finir mes études, de m'occuper de ma vie professionnelle, de m'occuper de ma famille, de m'occuper de mes enfants, de mes vieux parents qui vieillissent. Permets-moi de m'occuper d'abord de mon travail qui prend trop de place. Permets-moi de m'occuper d'abord du chômage qui suspend l'existence. Et c'est ça notre charge. C'est souvent ce qui nous retient. Et nous fantasmons volontiers sur la simplicité de la vie au temps biblique, comme si les humains d'il y a 2000 et quelques années n'avaient pas des attachements et des psychismes aussi complexes que les nôtres. Et quand Jésus parle de ne pas mettre la main à la charrue, il est aussi compliqué à suivre, pardonnez-moi le double sens, il est aussi compliqué à suivre à son époque qu'il l'est aujourd'hui. Jésus parle de recentrer sa vie, certainement. Et nous avons tous aujourd'hui, de manière extrêmement claire, le sentiment que recentrer notre vie serait assez simple. Nous n'avons plus de charrue, nous avons toutes sortes d'autres outils. Nous avons des smartphones dont nous considérons volontiers qu'il suffirait d'un peu de bonne volonté, un peu de volonté tout court même, pour se débarrasser, pour laisser tomber les réseaux sociaux, pour arrêter les notifications d'actu qui tombent toute la journée, juste pour se mettre en mode avion quand on est au temple, ou alors juste sur vibreur. Il n'est qu'à voir justement tout ce que nous construisons, chacun d'entre nous, avec cet outil-là, tout ce que nous construisons dans notre pratique, dans notre discipline, dans notre éthique, dans une espèce de casuistique même souvent, sur ce qu'on laisse passer et ce qu'on bloque, les moments où on est joignable et les moments où on n'est pas joignable, les moments où on ne doit pas être joignable ou alors ça dépend pour qui, la nécessité d'être joint par le travail ou par la famille, ou toutes sortes de choses qui nous détournent les unes des autres. Et pas seulement de la disponibilité à la prière, à l'écriture, au culte, au service de l'Église. Et ce que nous dit le Christ sur la charrue devient très clair. Ce n'est pas une charrue, ce sont des charrues. Et le fait d'avoir mis en parallèle ce texte de Galates et de Luc est un choix éclairant. L'Épître parle des désirs contraires à ceux de l'esprit. Quand Paul parle aux Galates, il dit que les désirs contraires à ceux de l'esprit sont les désirs de la chair. Ce n'est pas seulement la convoitise sexuelle, ce sont les appétits matériels, les attaches vaines au monde. Une énumération, d'ailleurs, semble-t-il difficile à traduire et qui suit l'extrait du jour dans l'Épître aux Galates, c'est un peu plus loin. Il énumère. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça fait beaucoup, surtout si on doit détailler les choses semblables. Et là est ce à quoi nous invite le Christ dans son histoire terrestre, lorsqu'il est sur la route de Jérusalem, dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'il est lui-même devenu notre route. Ce à quoi il nous invite est à la fois extrêmement simple et terriblement difficile. Et pourtant, c'est là que se trouve notre liberté, la liberté à laquelle il nous appelle. Et ce que nous commande le Christ, c'est de construire nous-mêmes l'espace de cette liberté. Car à chaque fois que nous disons « permets-moi d'aller d'abord », c'est cette liberté que nous restreignons. Ce n'est pas notre liberté que nous augmentons en allant d'abord, pour employer cette formule, c'est notre liberté que nous restreignons. Cette liberté qui s'accomplit par la charité, par l'amour, par la parole répétée « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et que ce soit la charrue, que ce soit un rite funéraire d'il y a 2000 ans, que ce soit notre smartphone aujourd'hui, le Christ réclame de nous que nous sachions, dans nos vies, ne plus nous laisser retenir sur le chemin de l'amour, sur le chemin de son amour. Et puisque cet amour est débarrassé du feu du ciel,